France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Et nous sommes le samedi 29 mai, soyez les bienvenus sur France Musique. Adrien Roch à la réalisation, Nadège Antonini à la technique. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Quel plaisir de vous retrouver en ce samedi matin pour 1h30 de plaisir partagé. Voici le menu du jour. À 7h45, c'est le chef Benjamin Lévy qui viendra partager un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin célébrera la fête des mères en musique avec des œuvres allant de l'Ave Maria au Beach Boys, vous l'entendrez. À 8h15, notre reportage, Sophie Anastasio nous fera découvrir Radio Arbre, une libre antenne pour les arbres proposée par la comédienne Laetitia Doche. Notre invité à 8h30 sera Samuel Valency, membre du Shift Project qui vient de faire paraître ce rapport « Décarbonons la culture », c'est son titre. Et puis à 8h50, Christophe Chassol nous parlera de sa bande originale préférée, « La planète des singes » de Jerry Goldsmith. Très bon réveil à notre écoute. Le vol capricieux de Papillon de nuit, c'est Noctuel, pièce tirée des Miroirs de Maurice Ravel. Un souvenir de ce récital d'Alexandre Tarot donné à la Philharmonie le 19 mai dernier lors de la réouverture des salles. Un moment absolument magique que j'avais envie de partager avec vous ce matin. On va poursuivre avec un nouveau disque consacré au compositeur Dominique Probst. Son titre c'est Nuée, ça paraît chez Continuo Music. Et c'est un road trip à la découverte de l'univers de ce compositeur, Dominique Probst, des œuvres orchestrales qui nous emmènent des sommets du Mont Blanc au faste baroque de Versailles. Et puis à la baguette, c'est Benjamin Lévy qui dirige son orchestre de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur. En voici un extrait. Le quatrième mouvement de cette journée à Versailles aux couleurs américaines, vous l'entendiez, œuvre de Dominique Probst à écouter sur ce disque qui paraît donc chez Continuo Music, son titre Nuée. Nous écoutions l'orchestre de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Benjamin Lévy à la direction, le chef d'orchestre qui sera des nôtres d'ailleurs sur France Musique d'ici quelques minutes. Et si vous avez des envies de sorties culturelles et que vous vivez dans les environs de Toulouse, sachez que le grand baryton allemand Matthias Gürn revient en France pour chanter ce cycle somptueux de Franz Schubert, Die Schöne Müllerin, La Belle Meunière. Ça se passera au Théâtre du Capitole de Toulouse le 2 juin prochain à 19h.
Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte sehen auf jedes frische Beet, mit Kressen Samen, der es schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben, fein ist mein Herz, fein ist mein Herz, und soll es ewig nicht Ich jungen Starr, bis dass er spricht die Worte rein und klar, bis er sie spricht mit meines Mundes Klang, mit meines Herzen vollen heißen Drang, dann singe hell durch ihre Fenster scheinen, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ich möchte säuseln durch den Regen rein, wo leuchtet es auf jeden Blumenstern, trüg es den Ruf zu ihr von nah und fern, ihr Vogel könnte nicht verzählen treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es es müsste in meinen Augen stehen, auf meinen Wangen müsste Tränen ziehen, zu lesen es auf meinem stummen Mund, an jeder Atemzug gibt's laut den Grund, und ziehe nichts von all dem Wangen treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.
Ihre stillen Worte.
schüttelt ab die Träume froh und hebt euch frisch und frei empor in Gottes hellen Morgen. Die Lerche wirbelt in der Luft und aus dem tiefen Herzen ruft die Liebe Leid und Sorgen. Die Liebe Leid und Sorgen.
Deux extraits de cette belle meunière de Franz Schubert pour notre plus grand plaisir avec Matthias Gurn, Christoph Eschenbach au piano. Matthias Gurn qui sera donc en récital le 2 juin prochain au Théâtre du Capitole de Toulouse. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. Bienvenue Benjamin Lévy.
Bonjour.
Quel plaisir de vous accueillir sur France Musique ce matin. Vous êtes chef d'orchestre et on a le plaisir eh bien, de vous avoir avec nous pour une double actualité. Tout d'abord, moi j'aimerais qu'on commence avec cette représentation à venir. Vous êtes dans les couloirs du théâtre de l'Athénée à Paris où vous présentez actuellement cette production Les Sept Péchés Capitaux de Kurt Weill et Bertolt Brecht. J'imagine que c'est un moment particulier de retrouver les coulisses, la scène aussi. Que se murmure-t-il parmi vos musiciens ?
Alors c'est doublement émouvant parce que effectivement cela fait bien longtemps comme tout le monde que on s'est pas produit en présence de public et puis pour nous pour les musiciens de l'orchestre de Champeléas et moi-même c'est une émotion également parce que l'orchestre est né dans ce théâtre à la suite des représentations qu'on avait données avec la compagnie Les Brigands il y a bien longtemps l'orchestre de Champeléas est né de ces expériences de théâtre musical avec la musique légère et là on revient dans ce théâtre qui nous a vu naître et c'est assez émouvant aussi parce que on avait commencé par du Offenbach et Kurt Weill me fait beaucoup penser à Offenbach à la fois dans son parcours et dans sa manière d'agréger plusieurs styles tout en restant éminemment personnel.
Tout en apportant sa patte qui lui est bien propre, évidemment. Vous évoquez évidemment l'orchestre de chambre Péléas que vous dirigez, bien évidemment, Benjamin Lévy, dans cette nouvelle mise en scène de Jacques Ozinski. On va peut-être raconter, vous pouvez nous raconter en une phrase l'histoire de ces sept péchés capitaux. Que raconte cette œuvre-là ?
Alors, il y a, comme souvent dans ces œuvres très symboliques, il y a une histoire de surface et une histoire plus souterraine. Alors l'histoire du surface, c'est Anna qui est une sorte de double personnage, donc qui est une personne qui est d'un côté très sage et de l'autre côté beaucoup moins sage. Et cette où c'est Anna part pour une sorte de périple de 7 ans dans les États-Unis, une sorte de périple de road trip américain pour gagner de l'argent pour pouvoir construire une maison parce que la famille d'Anna l'attend en Louisiane où ils sont restés eux en attendant que l'argent arrive. Voilà, donc c'est une sorte de critique à la fois très acerbe d'une société très petite bourgeoise puisque le titre original du texte de Brecht c'est Les Sept Péchés Capitaux des Petits Bourgeois. C'est assez amusant.
Brecht on sent déjà l'humour aussi.
Voilà, exactement. Et puis, c'est assez incroyable que Weill, qui était en chemin de l'Allemagne vers l'Amérique, je ne sais pas s'il savait déjà qu'il irait en Amérique, donc ça a été écrit en 1933, se retrouve à Paris, et l'œuvre a été écrite à Paris créé au Théâtre des Champs-Élysées. Et effectivement, dans la musique, il y a une sorte de chemin assez touchant entre l'Europe et une musique qui est déjà très immergée, très mêlée, avec une sorte de côté à la fois cabaret berlinois et à la fois déjà avec des prémices de comédie musicale américaine.
Je crois que vous donnez envie à pas mal de nos auditeurs. Hein. C'est à découvrir donc, évidemment, au Théâtre de l'Athénée à Paris jusqu'au 5 juin, les 7 péchés capitaux de Courteval. On va quand même citer ces artistes à l'affiche, dont le double rôle de Anna, justement, la mezzo-soprano Nathalie Pérez. Vous pourrez entendre également Noémie Etlin, Guillaume Andrieux et Florent Baffy, entre autres, évidemment, et puis l'orchestre de chambre Péléas et vous-même à la direction, Benjamin Lévy. Il y avait cette autre actualité également, ce nouveau disque consacré à Dominique Props, dont nous avons écouté un extrait tout à l'heure. Nuée, ça paraît chez Continuo Music, et c'est un disque que vous avez enregistré avec l'orchestre de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont vous êtes directeur musical depuis 2016. Le temps file, Benjamin Lévy. On va s'orienter vers votre choix musical. Qu'avez-vous choisi de partager avec nos auditeurs aujourd'hui?
Eh bien, j'ai choisi de vous faire entendre un extrait d'un disque que Amel Brahim Djelloul, soprano franco-algérienne, a enregistré avec son ensemble Amédiez. C'est, alors j'ose à peine dire le titre de l'extrait, ça s'appelle Ay Al-Ahir Inou, c'est du kabyle, donc je ne sais pas exactement si je prononce bien, Amel me pardonnera, et j'adore cette chanteuse, cet artiste, et ça me fait penser que vraiment la qualité musicale d'un artiste, c'est le sens du phrasé, de la phrase musicale, et cette qualité, elle est l'apanage d'aucun répertoire. Je suis très content qu'on puisse écouter cet extrait.
Merci beaucoup Benjamin Lévy, et à très bientôt.
À bientôt.
Amel Brahim Djelloul, ici accompagné par son ensemble Amédiez, avec ce titre Tendresse, titre Didier. C'était le choix de Benjamin Lévy pour nous ce matin. Un petit mot sur notre concours du jour. Parlons du Festival de musique ancienne de Maguelone, dont la 38e édition se tiendra du 10 au 14 juin prochain en partenariat avec France Musique. Une bien belle affiche, hein. L'ensemble Clément Jeannequin dirigé par Dominique Viss, Jordi Savall et Pedro Esteban, mais aussi le samedi 12 juin, Joshua Chitam, Gabriel Rignol et Johan Moulin, respectivement à la viole de gambe, au théorbe et au clavecin. Trois musiciens qui rendront hommage au prestigieux gambiste Antoine Forqueray, dont nous célébrons le 350e anniversaire cette année. Le concert aura donc lieu le 12 juin à 20h. Vous trouverez toutes les informations sur le site du festival www.musiqueancienneamaguelone.com, festival qui se déroule en partenariat avec France Musique. Alors pour fêter ça, je vous offre un disque ce matin, disque sur lequel paraît le claveciniste Johan Moulin, qui fait partie de l'ensemble L'Aquéron de François Joubert Caillet, disque de sonate en trio de Philippe Heinrich Erlebach, musicien de la fin du XVIIe siècle trop mal connu, un disque paru chez Richard Carr. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur la page de Musique Matin sur le site francemusique.fr. Vous nous laissez la bonne réponse à cette question. Dans la mythologie grecque, qu'est-ce que l'Achéron ? Est-ce le fleuve que traverse Orphée pour secourir Eurydice des enfers ? Est-ce le nom du dieu des enfers ou alors le nom de famille d'Orphée ? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Maestro, l'émission musicale d'Arte tous les dimanches. Dimanche 30 mai à 17h30, la folle journée de Nantes, de Bach à Mozart, la lumière et la grâce. En direct de la Cité des Congrès, le concert de clôture réunit des artistes de renom, dont Renaud Capuçon, la nouvelle génération de musiciens et d'autres ensembles. La lumière de Bach et la grâce de Mozart sont à savourer. À retrouver dans les émissions de France Musique et francemusique.fr.
En 2021, on fête les 100 ans de la radio,
les 40 ans de la libération des ondes
et le lancement de la radio numérique DAB+ en France.
Toutes vos radios s'unissent pour célébrer le média préféré des Français du 31 mai au 6 juin prochain.
Émissions spéciales, ateliers, concerts, live stream, journées portes ouvertes.
Découvrez tous les événements proches de chez vous sur le site fetedelaradio.com et sur les réseaux sociaux.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer. Excellent réveil à l'écoute de France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour mon cher Marc-Olivier.
Bonjour cher Saskia.
Je crois que vous avez encore une célébration en tête.
Et oui, Saskia, la fête des mères que nous célébrerons demain, dimanche 30 mai. Mes recherches de musique dédiées à cette fête n'ont pas été totalement concluantes.
En ce printemps, bonne fête maman, moi ton enfant. Je t'aime tant.
C'est magnifique, merci Marc-Olivier. Pourtant, une mère n'est-elle pas aussi essentielle dans l'art que dans la vie ?
Ben oui, bien sûr. Il en existe d'ailleurs de multiples représentations dans le répertoire polyphonique. D'abord dans la musique religieuse d'inspiration chrétienne, catholique ou orthodoxe, un immense corpus est ainsi consacré à Marie. Voici un extrait de l'Ave Maria de Josquin par les King Singers.
Thank you.
Et en dehors de cette représentation religieuse de la figure maternelle, qu'avez-vous trouvé d'autre, Marc-Olivier ?
Dans l'opéra, beaucoup de personnages de la mère sont présents, au point d'ailleurs d'en faire un objet d'analyse psychanalytique.
Effectivement.
Les personnages La Reine de la Nuit ou Madame Butterfly ont d'ailleurs généré une impressionnante littérature. Mais en dehors des formes lyriques, on rencontre également une multitude d'autres figures, telles que ce personnage de fiction inventé par Charles Perrault au XVIIe siècle, Mamerloi, qui nous émerveille avec ses contes d'inspiration populaire. De Mamerloi de Maurice Ravel, un extrait du Jardin féerique dans la belle transcription pour chœur réalisée pour Accentus.
Et plus récemment, Marc-Olivier.
Alors la chanson, la comédie musicale se sont également emparés du thème de la mère. Saskia, aimeriez-vous entendre une mama dans son rôle le plus prescripteur, par exemple ?
Avec plaisir.
Les Beach Boys ont enregistré une version a cappella, rigolote et délicieuse, Mama Says.
Eat a lot, sleep a lot, brush 'em like crazy, run a lot, do a lot, never be lazy. Eat a lot, sleep a lot, brush 'em like crazy. Run a lot, do a lot, never be lazy. Eat a lot, sleep a lot, brush 'em like crazy. Run a lot, do a lot, never be lazy. Eat a lot, sleep a lot, brush 'em like crazy. Run a lot, do a lot, never be lazy. Never be lazy, be lazy. Eat a lot, sleep a lot, brush 'em like crazy. Run a lot, do a lot, never be lazy. Boy.
Merci beaucoup, Marc-Olivier.
Avec plaisir, Saskia.
Et on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Bon week-end
avec
à vous.
Avec joie. Bon week-end à vous aussi.
Thank you.
le final du premier concerto pour piano de Frédéric Chopin, interprété par Benjamin Grosvenor en soliste, accompagné par le Royal Scottish National Orchestra, Elim Chan à la direction. Si vous avez l'occasion de vous rendre à la Maison de la Radio et de la Musique le 1er juin prochain, sachez que ce fantastique pianiste Benjamin Grosvenor, qui est en résidence à Radio France cette saison, eh bien sera présent. Il proposera un programme comprenant notamment la troisième sonate de Frédéric Chopin, mais aussi des pièces de Robert Schumann. Ce sera donc le 1er juin, ici, à la Maison de la Radio. Et c'est l'heure de notre reportage, une libre antenne pour les arbres au menu ce matin. C'est ce que propose la comédienne Laetitia Doche avec son projet Radio Arbre, une émission dans laquelle les chênes, les figuiers ou encore les baobabs peuvent prendre la parole, raconter leurs problèmes de voisinage ou leurs histoires d'amour. Sophia Anastasio nous en fait la présentation.
Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Arbre, la radio des arbres, pour les arbres.
Radio Arbre, c'est l'émission de Libre Antenne qui donne la parole à nos amis à troncs et à feuillages. À l'origine de cette idée, on retrouve la comédienne Laetitia Doche. Elle nous raconte comment ce programme a vu le jour.
Alors Radio Arbre, c'est un projet qui est né l'année dernière pendant le confinement. Je devais faire en Suisse quelque chose autour des arbres en public, ça a été annulé. Et je me suis dit, bah tiens, si on peut pas le faire en vrai, il faudrait qu'on le fasse par les ondes, parce que par les ondes, on peut. Et je me suis dit, ah, mais ce serait génial que les gens participent. Et je me suis dit, ah, ce qui serait bien, c'est de faire une libre antenne, comme Macha Béranger des arbres, donc une arbre ou un arbre, un végétal, qui a décidé de remettre les arbres ensemble, qui se reconnectent à travers les pays francophones, et qui va lancer une bouteille à la mer. Si vous avez des problèmes, si vous avez quelque chose à dire, je suis là pour vous écouter.
Radio Arbre.
Et nous allons tout de suite recevoir notre premier invité de la soirée, notre premier auditeur. Allô ?
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Lausanne.
Est-ce que vous êtes en ville ? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous ? Et quel arbre êtes-vous ?
Je suis un cèdre et je suis dans le nord de la ville, dans le quartier du Valentin. Et autour de moi, il y a quelques arbres, mais surtout des habitations.
Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre appel ?
Ben, je vous appelle en fait parce que ça fait un moment maintenant qu'il y a un voisin qui m'attire,
oui,
qui m'intrigue. C'est un volet bleu.
Ah d'accord.
Ici, à l'autre bout du fil, on a donc un cèdre amoureux d'un volet bleu. Avant chaque enregistrement d'émission, l'équipe du podcast poste une annonce et Laetitia Doche nous révèle qui se cache derrière ses auditeurs végétaux.
C'est des gens, évidemment, qui ont un arbre à côté de chez eux qui leur plaît, qui ont un feeling particulier avec une certaine plante de leur appartement, par exemple, et qui vont prendre la parole en son nom. Et nous raconter un problème qu'ils ont, ça peut être contre les humains, ou ça peut être pour les humains d'ailleurs, il y a des plantes ou d'autres végétaux qui adorent les humains. Surtout, c'est des problèmes qui sont souvent avec des non-humains, avec des oiseaux, avec d'autres arbres. Et ça permet, je trouve, de découvrir le monde végétal, tout en s'amusant, parce que c'est assez drôle à écouter, d'imaginer que des arbres, tout d'un coup, viendraient se confier à d'autres arbres. C'est quand même un système assez rigolo.
Parce que maintenant, on va écouter un peu de musique, on embrasse le pommier, avec une chanson qui est dédicacée par le sureau de Stockholm, pour la cigale qui habite sur sa branche droite, pour lui dire « Si tu ne m'aimes que l'été, moi je t'aime toute l'année », et il a choisi cette musique garantie sans bois.
Les épisodes sont disponibles sur la plateforme de podcast Audioblog. Ils sont habillés de musique. On peut y entendre par exemple un son du groupe Forest Gun. Chacun peut appeler pour se mettre dans la peau d'un arbre et raconter l'histoire qu'il veut. Et c'est assez varié.
Il y a un pommier qui nous a appelé, qui avait un accent pas possible et qui nous disait qu'il fallait être généreux avec les humains et avec la terre. Il était content de faire énormément de pommes cette année. Je trouvais ça super beau. Il y en avait un autre qui était un cercueil en chêne, hein, donc un chêne qui nous appelait pour savoir s'il était vivant ou s'il était mort. Ça m'a beaucoup plu, ça aussi. Il y avait un jeune platane qui habitait dans une cour et qui voulait absolument se reproduire et qui n'y arrivait pas et qui essayait par tous les moyens, il fallait le conseiller sur comment il pouvait arriver à se reproduire. Donc il y a, vous voyez, plein d'histoires très différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.
Et d'ailleurs, nous lui avons demandé à Laetitia Doche si elle était un arbre, lequel serait-elle ?
Moi, j'aimerais bien être un tilleul. Et je pense pas que je parlerai de problèmes. Je parlerai de ma relation avec, avec les abeilles et les bourdons.
Une relation d'amour ?
Ah ben, c'est, oui, d'amour, de complémentarité. Et puis on se rend des petits services aussi mutuels, quoi. Bon, ça nous permet aussi d'aller nous reproduire plus loin, qu'elles viennent nous voir. Une relation d'amour équilibrée, où c'est du donnant-donnant, quoi.
Si vous souhaitez participer au prochain épisode, il sera enregistré le 5 juin, diffusé le 6 juin dans l'émission L'Expérience de France Culture. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer un mail. L'adresse, c'est radioarbre, arbre au pluriel, @gmail.com.
Et c'est Plantasia qu'on suit pas Mante Garçon en 76 pour faire pousser les arbres que vous entendez ici. Les autres épisodes sont à retrouver sur audioblog.arteradio.com. Merci beaucoup Sophie Anastasio pour ce reportage. Et puis j'en profite quand même pour vous dire que la fantastique Laetitia Doche sera notre piano dans l'un des épisodes de nos nouveaux podcasts natifs pour les enfants, pour les grands aussi, Les Instrus, série qui sortira le 7 juin prochain sur l'application Radio France. Thank you. le premier mouvement de la 5e symphonie de Franz Schubert avec le Concentus Musicus Wien, Stefan Gottfried à la direction. C'est une nouveauté, un nouveau disque qui paraît sous le label Aparté. Un petit mot sur cette première fête de la radio qui aura lieu la semaine prochaine, qui sera organisée la semaine prochaine. Notre magnifique média qui fête cette année le centenaire des premières émissions radiophoniques depuis le site de la Tour Eiffel, mais aussi les 40 ans de la libération de la bande FM et puis l'accélération du déploiement de la radio numérique aujourd'hui, bien sûr. Alors à partir du 31 mai, notre maison ronde accueillera notamment des manifestations, des conférences. Je vous invite à aller faire un tour sur le site www.fetedelaradio.com pour en savoir plus sur ces événements organisés ici à la Maison Ronde, mais aussi partout en France. Sur France Musique, sachez d'ores et déjà que Roch-Olivier Mestre, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sera l'invité de Jean-Baptiste Urban dans Musique Matin. Ce sera le 1er juin prochain.
Pour ne pas changer, 7h du matin, à nouveau je te dis déjà,
je t'en supplie, baisse un peu la radio.
On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça,
je t'en supplie, baisse un peu la radio.
Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que c'est bientôt fini? Réponds au lieu de cibler, au lieu de chanter. Les derniers succès, autant que toi ne l'oublie pas. Oui, j'ai Madame Mireille Mathieu avec son credo. J'aime Hallyday et les autres aussi, oui. Mais j'aimerais bien dormir la nuit, autant que toi ne l'oublie pas. Oui, j'aime Hugo Frey. J'aime bien Antoine avec ses oeillets, ses chemises à fleurs, son harmonica et ses cheveux longs. Les derniers succès, autant que toi, moi j'aime Christophe, j'aime Claude François, Hervé Villard et aussi Sheila. J'aime les Beatles et tutti quanti, oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit. Je t'en supplie, baisse un peu.
Baisse un peu la radio, vous avez sans doute reconnu cette voix, celle de Dalida, c'était en 1966.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Décarbonons la culture, c'est le nom de ce rapport qu'a fait paraître il y a quelques jours le Shift Project. Comment contribuer à la décarbonation et la résilience du secteur? C'est même difficile à dire, hein, Samuel Valency.
D'ailleurs, les logiciels de traitement de texte continuent à maltraiter ce mot.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Samuel Valency, vous êtes auteur, metteur en scène, vous êtes chef du projet culture au Shift Project, dont nous allons évoquer ce rapport ce matin. Tout d'abord, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore le Shift Project, comment peut-on le décrire? De quoi s'agit-il?
Alors, le Shift Project, c'est une association d'intérêt général qui cherche à éclairer et influencer le débat public sur les enjeux énergie-climat, qui, je crois, sont assez centraux au XXIe siècle.
Je pense qu'effectivement, on en parle pas mal, et notamment ici, dans cette matinale, chaque samedi. Parlez-nous peut-être tout d'abord aussi de ce rapport. Pourquoi vous êtes-vous soudainement, peut-être le mot est maladroit, mais soudainement intéressé à la culture, plus précisément?
Alors, à titre personnel, je m'intéresse à la culture depuis longtemps, puisque je suis auteur et metteur en scène. Et en fait, j'ai des engagements assez forts dans mes propres spectacles. Et The Shift Project, en mars 2020, à un moment où il était difficile de se projeter dans le monde théâtral à titre personnel, a lancé un énorme chantier sur comment est-ce qu'on fait pour décarboner l'ensemble de nos activités. Et à ce moment-là, il y avait Anaïs Roche qui avait déjà créé la partie culture au sein du Shift Project. Et le Shift m'a proposé de la rejoindre pour travailler sur ce plan de transformation de l'économie française. Comment fait-on à l'aune de cette crise sanitaire qui bouleverse toutes nos activités pour imaginer des activités culturelles plus résilientes?
Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, en tout cas, ce rapport est extrêmement intéressant. Vous l'avez présenté, donc je le disais, hein, il y a quelques jours. Peut-être tout d'abord pour donner une idée aussi à nos auditeurs du poids que représente la culture aujourd'hui dans l'économie française. On parle de combien d'emplois ?
La culture aujourd'hui, c'est entre 600 000 et 700 000 emplois. Ça dépend ce qu'on compte, parce qu'il y a beaucoup d'emplois en contrat court, en contrat intermittent. Après, en fait, ça, c'est le prisme direct. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que la culture génère. Si vous enlevez la culture à Avignon, par exemple, vous avez plus du tout l'hôtellerie d'Avignon.
Voilà, le tourisme.
Exactement, vous perdez 50 à 60% de l'hôtellerie du centre-ville, par exemple. Ça, c'est à peu près le chiffre d'affaires des hôteliers. Vous avez tous les emplois dans le numérique qui sont grandement liés à la culture, par exemple, parce que la culture, c'est à peu près 80% des contenus qu'on consomme sur le numérique en termes de poids de données. Donc voilà un peu, la culture, c'est pas que les emplois que ça représente. Il faut regarder
aussi toutes les interactions effectivement avec lesquelles elle est mise face auxquelles elle est mise. Mais parlons peut-être alors des menaces auxquelles le secteur culturel doit faire face aujourd'hui. Qu'est-ce qui en est ressorti de ce rapport, justement?
En fait, les menaces, elles sont mesurées par deux choses, par notre dépendance au lointain et par nos émissions de CO2. Nos émissions de CO2, elles nous posent un double problème. Elles traduisent une dépendance à des énergies fossiles qui se raréfie. Elles mettent entre 30 et 250 millions d'années à se former. Donc elles sont renouvelables, il faut juste avoir beaucoup de temps devant soi pour qu'elles se renouvellent. Et comme on tape très vite dans les stocks, il est possible que si on en dépend beaucoup pour ces activités, on soit à risque en cas de choc. Par ailleurs, ces énergies fossiles, elles aggravent un problème climatique majeur qui ne nous arrange pas du tout, puisque si on continue sur la trajectoire actuelle, on serait vers une trajectoire plus 4, plus 5 degrés.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la double contrainte carbone, effectivement. C'est aussi un secteur qui est grandement exposé aux crises sanitaires, et ça on l'a vu avec cette période, cette année terrible que nous venons de vivre.
Tout à fait, et l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, en permettant la fonte de sols gelés par exemple, va accroître le risque sanitaire. Et comme dans le même temps, on continue à artificialiser les sols, on continue à signer des accords commerciaux à l'international, et que, on l'a vu, les virus n'ont pas peur de prendre l'avion, a priori, on va se retrouver dans une situation qui peut se reproduire. Donc il faut aussi le prendre en compte quand on parle du secteur culturel. À quel point dépend-il du lointain? À quel point dépend-il de touristes étrangers? Jusqu'à quel type de flux est-il connecté, interconnecté? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on se pose pour mesurer les risques et du coup proposer des transformations.
Alors pour ce qui est de la méthodologie de ce rapport, hein, je rappelle son titre, Décarbonons la culture, vous avez organisé des entretiens avec énormément de professionnels. Quel est peut-être l'élément qui est ressorti le plus régulièrement? Est-ce qu'il y a eu des surprises dans ce que vous avez entendu?
Je pense qu'au tout début, il y avait un effet de surprise de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au secteur culturel en tant que tel, parce que c'est pas du tout le premier levier identifié pour la transition écologique. Généralement, les premiers leviers identifiés, ce sont l'énergie, les transports, le bâtiment, etc. Enfin, les carburants et autres. Mais en fait, on est très dépendant de tout ça pour faire la culture.
On parlait de cette interconnexion justement avec plein d'autres domaines.
Exactement. Et du coup, la première action, c'était souvent, on est très peu concerné. Donc une méconnaissance des risques, ou aussi une méconnaissance des enjeux énergie-climat. En général, sur le tout démarrage du travail, on s'est un peu retrouvé dans le désert, donc il a fallu trouver énormément d'informations. C'est pour ça qu'on a passé autant d'entretiens, pour essayer de donner des clés aux acteurs, en fonction du type d'acteur qu'on avait en face de nous. Voilà où se situe le cœur de vos émissions. On peut pas vous faire un bilan carbone comme ça, mais on peut dire, voilà où se situe le cœur de vos risques, et du coup, quel genre de transition vous pouvez envisager. C'est vrai que ça a été un choc au démarrage.
Et c'est vrai qu'il y a toute une série de stratégies qui sont proposées, on va les dérouler évidemment. Pour donner un chiffre quand même, l'impact carbone d'un grand festival en périphérie, 14 000 tonnes, il y a vraiment une possibilité de diminuer ce chiffre effarant.
Ce ne sont que les tonnes que nous on estime sur des postes qu'on a identifiés, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qu'on n'a probablement pas identifiés. Et oui, il y en a certainement d'autres, et il y a certainement des leviers importants de réduction. Par exemple, si ce festival sert essentiellement de la viande, voire de la viande rouge, le tonnage sur la partie alimentation, ça va être 2000, 3000 tonnes d'équivalent CO2. Donc pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, c'est à peu près un millier d'allers-retours Paris-New York en avion. Ça pourrait être divisé par à peu près 10 si on passait à une alimentation plutôt végétarienne et plutôt locale. Donc il y a des gros leviers d'action parfois qui ne changent même pas le métier du festival en lui-même.
Bonheur d'écouter ça ce matin, All Love, Eric Clapton sur cet album Unplugged. Votre choix, Samuel Valency, un petit mot sur ce qu'on écoute, au-delà du fait que ça fait tellement plaisir.
Ah, c'est un morceau qui est absolument sublime, c'est à la fois ce qui m'a donné envie de jouer de la musique, parce que c'est par la musique que je suis rentré dans le théâtre, et c'est aussi quelque chose d'assez fort en termes d'histoire, c'est le retour d'Eric Clapton après avoir franchi des obstacles, donc c'est ma passion pour la musique et les histoires, ce morceau c'est un très beau concert, très émouvant, mais surtout qui se joue avec très peu de choses.
Voilà, le dépouillement ou la simplicité, mais l'émotion est là.
Et qui nous touche au cœur.
Évidemment. Merci de nous avoir partagé ce titre ce matin, Samuel Valency. Je rappelle, vous êtes auteur, metteur en scène, et on vous a invité ce matin puisque vous êtes le chef de projet Culture ou Shift Project qui fait paraître ce rapport Décarbonons la culture dont nous parlons ce matin avec énormément de choses dont on veut parler ce matin. J'espère qu'on arrivera au bout. Évidemment, vous prenez une nouvelle structuration des activités culturelles, vous proposez des stratégies. On va peut-être aller directement dans le vif du sujet. Quelles sont peut-être les grandes lignes que nous devons dès à présent changer pour aller vers un mieux?
Les grandes lignes, c'est à la fois d'accepter une certaine forme de relocalisation qui parfois peut créer de l'emploi. On voit en ce moment, par exemple, la ville de Paris qui met beaucoup d'énergie dans les matériothèques, les ressourceries, ce genre de choses. Ça crée de l'emploi localement et en même temps, ça nous évite d'aller chercher des matériaux trop loin, par exemple. Relocaliser, ça peut aussi être ce qu'a fait le Théâtre de la Colline il y a quelques années. J'ai des stocks qui sont en Normandie. Ça paraît loin de la région Île-de-France. Et du coup, je vais ramener tous mes stocks à une cinquantaine de kilomètres de mon théâtre et ça va grandement réduire les distances parcourues. Il faut les tonnages déplacés, il faut les camions qui se déplacent. Donc, ça a des impacts très, très forts en termes de réduction. Ça, c'est la relocalisation. Je vais juste les dire dans les grandes lignes, mais il y a également le fait de ralentir, tout simplement. On voit qu'aujourd'hui, la tendance sur les festivals, par exemple, c'est d'être passé en 10 ans, parfois, d'une dizaine de milliers de spectateurs à 280 000 spectateurs parfois. Donc on voit qu'en fait ça demande de plus en plus des spectateurs lointains. Et pour donner un chiffre, s'il y a 3% des festivaliers qui viennent en avion, ils font 60% des émissions des transports. Oui. Donc voilà pour donner un petit peu des ordres de grandeur sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de relocaliser, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ralentir. On a aussi besoin d'éco-concevoir les œuvres, c'est-à-dire de se demander à chaque fois qu'on crée quel est l'impact, de quelle matière j'ai besoin, d'où vient-elle, comment je la transforme, comment elle va se déplacer en tournée et où est-ce qu'elle va finir. Et le mieux, ce serait qu'elle finisse à un endroit localement pour être réutilisée par quelqu'un d'autre. Voilà, ça fait partie des grands leviers qu'on a identifiés.
Et puis il y a aussi cette formation systématique que vous prenez, mais à tous les niveaux.
À tous les niveaux. Déjà, les jeunes, je le fais moi-même parce que je crois qu'il y a 36 500 étudiants qui sortent chaque année de l'enseignement supérieur culturel et que ces 36 500 étudiants seront au poste clé au moment où il faudra atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire prendre les dernières décisions probablement les plus difficiles en termes de structuration des activités. Par ailleurs, je pense qu'il est impossible d'imaginer que les pouvoirs publics vont soutenir le changement des structures existantes si dans les structures existantes, personne ne comprend et si du côté des pouvoirs publics, on ne peut pas vérifier que les dépenses sont faites pour bien décarboner les activités. En gros, est-ce qu'on est juste en train de donner de l'argent pour avoir des voitures électriques et faire le tri des déchets, ou est-ce qu'on est en train de vraiment se réinventer et réorganiser nos activités? C'est comme ça que la dualité se pense, et du coup, il faut imaginer que tout le monde soit formé pour résoudre le problème ensemble.
Alors, cela concerne bien évidemment les salles de spectacle, les festivals, les tournées notamment. Il y a 4 types de transformations qui sont proposées parce que, évidemment, à chaque structure, ses spécificités.
Tout à fait. On a 4 types de transformations. On dit les transparentes, les positives, les offensives et les défensives. Transparente, ça veut dire que ça ne change rien à mon métier. Exemple, je décide dans ma compagnie, c'est ce qu'on fait, de passer à une régie totalement végétarienne et ça élimine 1 ou 2 tonnes de CO2 émises à chaque création et on voit très bien l'impact. Positif, c'est en plus je lance la transition dans d'autres secteurs. Je rénove mon bâtiment parce que c'est une passoire thermique où ma salle nationale est chauffée au fioul et ça émet 500 tonnes de CO2 à l'année.
Et pour ça, il y a des aides qui sont
prévues. Il y a des aides et on comprend très bien pourquoi, parce que ça crée de l'emploi dans d'autres secteurs et de façon pérenne. Donc c'est très intéressant. Et là, on a besoin des pouvoirs publics.
Les transformations offensives.
Là, typiquement, ce serait réduire la jauge de mon festival parce qu'il demande des consommations énergétiques qui sont incompatibles avec la trajectoire proposée par les accords de Paris.
Et pour terminer, la transformation défensive.
C'est-à-dire, je vais renoncer à des activités très carbonées. Par exemple, j'ai l'opportunité de développer la réalité virtuelle en streaming live depuis ma salle de spectacle. Et en fait, ça consomme énormément de données. Je crois qu'on va y venir. Et du coup, il faut peut-être réfléchir à l'impact que ça a et éviter de recréer l'aviation du secteur culturel.
Car c'est effectivement un axe que vous avez souhaité ajouter à ce rapport Décarbonons la culture. L'empreinte carbone du numérique dont on parle énormément et encore plus aujourd'hui avec la période que nous traversons encore et toutes ces captations qui ont été proposées.
Oui, il y a eu un vrai basculement, mais je peux dire que déjà avant la crise sanitaire, la culture, c'est à peu près 80-90% du poids des données consommées sur le web. Donc en fait, la culture est déjà un acteur majeur. C'est pour ça, par exemple, qu'au moment de la crise sanitaire, le gouvernement a demandé aux opérateurs des plateformes de réduire les débits envoyés, parce qu'il y avait un risque de saturation des réseaux. Et en fait, plus on sature les réseaux, plus on va avoir besoin de créer de nouvelles infrastructures comme la 5G qui vont ajouter une surcouche de consommation énergétique et qui du coup, cette énergie n'étant pas produite juste avec quelqu'un qui pédale, a priori, elle est produite à 82% par des énergies fossiles et du coup, on se retrouve à émettre encore plus de CO2. Juste pour donner un chiffre, regarder un film en HD il y a 10 ans, c'était regarder un film qui pesait à peu près 1 giga et demi. Aujourd'hui, un film en HD, c'est plutôt entre 20 et 50 gigas quand on est sur de la 4K, par exemple. Un film en réalité virtuelle streamé, que ce soit en direct dans la salle ou en replay, c'est à peu près 160 gigas. Donc plus on va avoir besoin de données, plus on va demander de la puissance de calcul aussi, et plus on va aller saturer les réseaux existants et donc demander des installations de réseaux supplémentaires et donc augmenter l'empreinte carbone du numérique.
Quel avenir pour ce rapport, Samuel Valency? Il s'agit ici d'un rapport intermédiaire. Je pense que vous êtes toujours en train de mener des entretiens. Vous appelez d'ailleurs les professionnels qui nous écoutent à participer à ce rapport.
À participer, à partager leur bilan carbone s'ils en ont, à nous donner des éléments chiffrés, concrets, des flux physiques s'ils en connaissent. Enfin, tout ça nous permet de mieux cerner les risques et donc de mieux proposer les changements.
Alors, vous pouvez vous connecter, chers auditeurs, sur theshiftproject.org ou écrire un mail à culture@theshiftproject.org. Vous trouverez toutes ces informations, bien évidemment, sur la page de Musique Matin sur francemusique.fr. On va se quitter avec votre autre choix musical, Sonia Vider-Atherton, grande violoncelliste ici dans du Bach. Et j'aimerais quand même dire un petit mot sur votre compagnie avant qu'on se quitte, Samuel Valency, parce que vous êtes aussi, donc je le disais, un metteur en scène, auteur. La poursuite du bleu, avec une actualité, deux actualités, un nouveau spectacle Coupure à découvrir à partir de septembre prochain au Consulat Voltaire à Ground Control et au Théâtre de Belleville. Et puis, la reprise de L'Inversion de la Courbe, ce sera en octobre au Théâtre de Belleville.
C'est ça.
Merci beaucoup, Samuel.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt sur France Musique. Et c'est l'heure de retrouver Christophe Chassol. Bonjour.
Bonjour Saskia, comment allez-vous?
Mais super bien, et vous?
Ouais, super, je vais vous parler. En fait, je ne comprends même pas comment je ne vous ai pas encore parlé de ça, mais c'est ma BO préférée.
La bande originale.
La musique de film préférée, c'est La planète des singes de 1969. De Jerry Goldsmith. C'est parti, on écoute. Do la si, si mi re si, tigiri. Et voilà, ça c'est le thème. Écoutez, il le répète trois fois. Tordu, hein?
Oui, c'est tordu, mais c'est génial.
Ta-da-da. Et une troisième fois. Et ça, écoutez ce motif. C'est tendre. On est vraiment sur une planète hostile, là, pour le coup. Bon, La Plaine des Singes, film de science-fiction fantastique de cette année fantastique 1969, où il y a eu aussi 2001, L'Odyssée de l'espace, Kubrick. Et là, c'est Franklin Schaffner, avec qui Jerry Goldsmith a travaillé pas mal et avec qui il s'est senti le plus à l'aise dans sa carrière, quasiment. Celui qui lui a donné le plus de liberté, qui lui a rien dit pendant qu'il écrivait cette musique. Et il a fait avec lui Boys from Brazil, super film aussi.
Absolument.
Et il a fait Patton aussi, Lionheart, enfin voilà, il a fait plusieurs films avec Schaffner. Et bon voilà, moi c'est la bande originale que j'ai le plus écoutée, le plus travaillée, je l'adore vraiment. Jerry Goldsmith est né en 29 et il est mort en 2004 à Los Angeles. Et donc c'est le compositeur d'avant-garde, je vous avais fait écouter La Malédiction, vous vous souvenez de La Malédiction? Mm-hmm. Voilà, c'est brillant, c'est un peu le compositeur d'avant-garde à Hollywood. Je vais vous faire écouter rapidement là parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais je pourrais tout vous faire écouter. On va écouter The Hunt, La Chasse, voix du Stravinsky du Stravinsky. Et on retrouve tout le temps ce motif. Là, les humains se font chasser par les singes à cheval.
On imagine quand même des chevaux sautillants, c'est rigolo.
Ah ouais, là il les course, il jette les filets sur les humains, c'est terrible. Charlton Heston se fait capturer.
Mais ça reste très léger.
Vous trouvez ?
Oui.
On va passer directement à l'extrait 4, s'il te plaît. Là, on est vraiment dans le sac du printemps.
Complètement.
Bon, voilà, c'est une musique sauvage, qui est organique et qui est... Mon but, là, c'est... Je sais que c'est difficile, mais... Je vous jure que cette musique, moi je l'ai tellement écoutée parce qu'elle est très très belle vraiment. En fait, elle est sauvage, âpre, mais hyper belle. Comme qui par exemple, comme Bartok en fait, je trouve, hein, qui a un langage comme ça, hyper dur, vraiment de dissonance et tout. Mais il y a une beauté dedans. Je dirais pas que c'est lyrique, hein, mais il y a une beauté vraiment dans cette bizarrerie. Il s'est entouré d'un il a eu un percussionniste, 50 musiciens dans l'orchestre, ils ont tout enregistré en 4 jours, et il avait un percussionniste de chez Disney, qui avait tout un attirail de percus, des cornes d'animaux, qui faisaient office d'alarme, des percussions métalliques, des culs de poule en inox, des sons très bas, très primitifs, anciens, archaïques, et pas du tout d'électronique comme ça se faisait à l'époque. Et vraiment, il a fait une musique, de l'espace, quoi, d'autre part, quoi, d'une autre planète. Vous connaissez la fin du film, non?
Non, je l'ai pas vu.
Bon, je vous dirai alors. Ok. On va écouter The Forbidden Zone un petit peu. Le motif qui revient tout le temps. Qu'on entendait dans The Hunt, dans le thème principal.
J'adore le petit ouh.
Ouais. Ça c'est une percussion, une peau frottée, je pense.
Un dernier,
oui. Où on va encore entendre, par exemple, dans No Escape. Je crois qu'il y en a 7 des extraits. On va écoutons le dernier extrait plutôt, parce que là-dedans, on va entendre encore du thème. Et je voulais vous montrer à quel point les accords sont beaux. On écoute le dernier extrait plutôt. C'est The Search Continue. C'est Charlton Heston qui explore la planète. Donani, ninani. Voilà, on est toujours sur ce motif.
planète bien étrange.
Ouais. Écoutez comme c'est beau ça. Là. De la vie.
La planète des singes, bande originale de Jerry Goldsmith, allez écouter, moi je vais aller voir le film, hein, ouais. Comme ça on pourra en parler la prochaine fois de cette fin apparemment qui a l'air extraordinaire.
Bah oui.
Merci Christophe.
Bah avec plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Un petit mot avant de se quitter sur notre concours. Je vous proposais de remporter ce matin ce disque de Sonate en trio de Erlebach, enregistré par l'Achéron de François Joubert Caillet. Disque paru chez Richard Carr. Il fallait deviner dans la mythologie grecque qu'est-ce que l'Achéron. Il s'agit bien évidemment du fleuve que traverse Orphée pour aller secourir Eurydice des enfers. Les gagnants seront recontactés par courriel. Merci à Marie-Ferdinand, à Adrien Roch, à Nadège Antonini qui était avec moi aujourd'hui. Merci à vous de nous écouter sur France Musique. Restez bien branchés puisque la suite, c'est avec Gabriel Oliver Aguillon à Nantes pour la folle journée. Très bonne journée à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.